ce 7 février, c'est la fête, d'après certains ouvrages, de Sainte Colette de Corbie, la réformatrice des Clarisses. Dans d'autres ouvrages, on la met au 6 mars, le jour de son décès. Alors, je ne sais quoi faire, j'ai décidé finalement de faire aujourd'hui la vie de Sainte Colette de Corbie, réformatrice donc des Clarisses, morte en 1447. C'est aussi la fête aujourd'hui de la fondatrice des exiliatrices des âmes du purgatoire. On les appelle souvent simplement les exiliatrices, qui sont très appréciées, très connues. C'est la bienheureuse Eugénie Smet, qui est morte en 1881. Je compte faire ça l'an prochain. Il y a aussi un martyr des Huguenots, des protestants, à Aubenas en 1593, et Saint-Guillaume Saute-Monche, et non pas Saute-Mouche, mais bien Saute-Monche, curieux nom. Et il y a un autre martyr des protestants la même année, toujours au même endroit, à Aubenas, c'est Saint-Jacques Salès. Salès, c'est un nom qu'on voit souvent en France. Et il y a Saint-Luc le Thaumaturge, un ermite de Grèce, de notre église sœur orthodoxe, mais à l'époque où nous n'étions pas séparés, heureusement, en mort en 953. Et enfin, Marie de la Providence, une bienheureuse fondatrice, donc, des auxiliatrices des âmes du purgatoire. C'est la même que Eugénie Smet, mais ce n'est pas la même, non, que Eugénie Smet, c'est chose étrange, on met ces deux sœurs-là le même jour, mais pas, qui ne sont pas décédées la même année. Je ne sais pas s'il y a une erreur dans cette liste des saints, que l'on retrouve dans le magnifique ouvrage Histoire des saints et de la sainteté chrétienne. Cet immense ouvrage, en très nombreux grands volumes illustrés dont je vous ai déjà parlé, est distribué chez Hachette. Ça coûte plusieurs centaines de dollars, mais les gens qui ont les moyens auront un plaisir énorme à parcourir cet ouvrage où il est rempli d'articles sur la sainteté, même la sainteté orthodoxe, la sainteté protestante, et sur de nombreux saints de toutes sortes avec des documents, et c'est merveilleux, sur papier glacé, des photos couleurs superbes. Je ne saurais trop vous recommander cet ouvrage. Et dans cet ouvrage, eh bien, on annonce Sainte Colette pour le 7 février. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. J'ai lu ces jours-ci plusieurs vies de Sainte Colette. Je me suis inspiré surtout de l'excellent petit ouvrage sous forme de brochure d'André Ravier, ce jésuite qui a beaucoup écrit, et qui écrit au début de sa brochure « Que peut bien dire encore à des hommes et des femmes de notre temps cette grande moniale en robe de bure ?» qui courut 40 ans par les chemins les plus dangereux de France. Trop de choses sans doute, des choses trop rudes, pour que nous les puissions entendre, et pourtant. Parce qu'elle était très stricte à son propre égard, cette femme. Elle était très exigeante, elle vécut, et elle a œuvré avec passion, pour une cause qui nous tient à cœur, particulièrement aujourd'hui, en ce 20e siècle, c'est l'unité des chrétiens. Elle vivait à la même époque que Jeanne d'Arc. Elle a rencontré Jeanne d'Arc, qui est allée prier dans un monastère qu'elle avait fondé. C'était à une époque où deux puis trois papes même se partageaient l'Église de Jésus-Christ. Il y a des gens qui vont peut-être être scandalisés, parce qu'ils n'ont jamais entendu parler peut-être des antipapes. Et vous savez qu'on a d'ailleurs prétendument un pape ici, à Saint-Jovite, imaginez. Mais là, c'était plus grave que ça, c'était vraiment des personnages qui avaient une certaine puissance et qui étaient appuyés par des États, et qui étaient parfois même nommés par des petits conciles. Et c'était très grave, ça divisait vraiment l'Église. Mais c'était grâce à elle en particulier que finalement on croit qu'un dernier antipape a été élu et a finalement été éliminée parce qu'elle appuyait un autre pape et il n'y a plus eu d'antipape par après. C'était l'époque aussi où les Armagnacs, les Bourguignons, se disputaient des morceaux du royaume de France, hein, pour le grand profit des Anglais. C'était l'époque de Jeanne d'Arc. Et au-dessus de tout cet ouragan, ben, sa voix s'est élevée, une voix de femme calme et ferme. Et elle a dominé le bruit de toutes ses haines, même des armes. Elle se promenait avec cinq simoniales pour aller fonder un monastère, mais elle passait à travers les terrains où tout ce monde se battait, elle était extraordinairement courageuse. Ça fait penser un peu à Mère Teresa, on l'a vu dans un film, qui quittait un endroit à Beyrouth sous les bombes, et les bombes se sont arrêtées. Comme par enchantement. On voyait ça à l'écran, c'était bouleversant. Et quand elle était arrivée au but qu'elle s'était proposé de l'autre côté de Beyrouth, eh bien les bombes ont recommencé. Quand meurt Colette, la route vers l'unité est dégagée dans toute l'Europe, est éclairée, c'est balisé. D'autres avant elle, avec elle, ont œuvré, c'est sûr, mais Colette, à l'exemple de Saint-François d'Assise, veut apporter une main vigoureuse là, à la racine de toutes ces dissensions, les haines, les guerres, et cet amour désordonné des biens terrestres. L'argent, le pouvoir, les honneurs, toutes les idoles, toutes ces inutilités. Heureusement qu'il y a des gens qui ont de l'argent et qui s'en servent à bon escient. Heureusement qu'il y a des gens qui ont le pouvoir et qui l'exercent comme un service. Heureusement qu'il y a des gens qui sont couverts d'honneur et qui ne s'en font pas pour du sou. Ils ne font pas de tout ça des idoles. Elle propose, elle, Sainte Colette de Corbie, une voie de salut, c'est la pauvreté évangélique. Mais la pauvreté, très exigeante. C'est par une belle après-midi de juin 1415, dans la petite ville très paisible de Poligny, la comtesse Blanche de Genève faisait son entrée dans la ville. C'est peut-être une femme puissante. Elle était la sœur de feu le pape Clément VII. Et les regards se tendaient vers elle. Mais quelque chose est arrivé. Poligny, comme toute la Franche-Comté, vivait sous l'autorité du terrible duc de Bourgogne, Jean sans peur, et de son épouse, qui était heureusement fort pieuse, Marguerite de Bavière. Mais la foule, ce jour-là, n'avait Dieu que pour cette femme d'une trentaine d'années, une femme spéciale qui arrivait vêtue d'une longue et pauvre robe grise, ceinturée du cordon Saint-François, coiffée par-dessus la tête de son voile noir, et empli un chapeau à large bord. Elle était au centre du petit cortège et s'en allait pieds nus sur les chemins très rugueux, on imagine. Et Sainte Colette avait le visage absorbé. Dans sa contemplation intime, c'était une contemplative depuis son jeune âge. Et sœur Colette, moniale ignorée de tous il n'y a pas 10 ans, et qui avait surgi un jour de 1410 dans la cité impériale de Besançon, et depuis, elle avait fondé 2 monastères, Ossonne, près de Besançon, et sa réputation de sainte, de thaumaturge, de prophète avait déferlé sur toute la région, puis elle venait, précisément à Poligny, pour établir un nouveau couvent, un deuxième couvent de Clarisse, pauvre. On disait d'ailleurs en anglais « the poor clares », c'est comme ça qu'on les appelle en anglais, les « poor clares ». Les pauvres Clarisses, quoi. Claire, c'est tout simplement le nom de Saint-Claire, hein? La grande amie de Saint-François d'Assise, qui a fondé les Clarisses. Alors, elles étaient pauvres de la pauvreté de François et de Claire d'Assise. Et le duc, le fameux duc de Bourgogne, lui avait fait don de l'ancien arsenal transformé en entrepôt et pressoir. Il avait passé outre aux protestations de ses fermiers. Le local, d'ailleurs, n'était pas prêt pour abriter les nouvelles religieuses. L'écuyer de la comtesse Blanche, un prêtre polinois, les a logés chez sa mère, au faubourg, tout près. Et sous la poussée de Sainte-Colette, bien les aménagements sont étaient bons trains. Puis au mois d'octobre 1417, bien les Clarisses prenaient possession de leur nouveau monastère, et Colette l'a placé sous l'égide de Notre-Dame de Pitié. Mais c'est à Corbie, en Bigardie, qu'elle est née. Corbie, on est tout près du Pas-de-Calais en haut, là, quand vous regardez la carte de la France, en plein centre, au nord, tout à fait en haut, là, C'est là qu'elle est née, à Corbie. Au foyer de Robert Boilet, un maître menuisier. Car son nom de famille, c'était Boilet. B-O-E-L-E-Y. Ils étaient tout près d'une grande abbaye bénédictine, très importante. Et pendant 65 ans, elle a toujours été impressionnée, au fond de son cœur, par cette abbaye, par la prière des moines. Elle était aussi une femme assez exceptionnelle. Hein. Sa mère avait 60 ans quand elle l'a mis au monde. Elle est née le 13 janvier 1381. En action de grâce, on l'a nommée, après avoir prié Saint-Nicolas, Nicolette. C'est le féminin de Nicolas, et c'est devenu Colette, tout simplement, comme on dit familièrement. Son esprit s'est éveillé, rapidement. Elle était sensible à ce que sa mère, qui était fort pieuse, puis un ami des Boilets, Adam Magny, lui raconte sur notre Seigneur Jésus. La vie de Jésus l'a marquée tout jeune. Si on racontait peut-être davantage la vie de Jésus à nos enfants, peut-être qu'il serait mieux marqué par la foi chrétienne. On lui a parlé aussi de la Vierge Marie, on lui a parlé des saints les plus populaires aussi. Ah, les saints ont des enfants de légende souvent et ça fascine les enfants. Mais la grande abbaye bénédictine, à long de laquelle somnole cette petite ville de Corbie, Moline, c'est pas un mythe, ça. Elle se dresse encore au-dessus de la ville aujourd'hui, et personne jamais n'a contredit l'affirmation de Colette, que dès l'âge de raison, elle s'est pu à s'évader même la nuit de la maison paternelle toute proche pour aller entendre les beaux offices des moines qui chantaient matine. Et la prière liturgique la fascinait, et vers l'âge de 7 ans, elle a connu l'esprit de François Claire d'Assise avec une telle acuité, on peut dire, que elle a confié à son confesseur, et qu'elle n'en a jamais su davantage plus tard. Pour elle, l'esprit de François de Claire l'a pénétré, c'était pour toujours. Et pour Jésus en croix, elle s'éveillait en elle une vraie tendresse, qui l'inclinait malheureusement à des grandes mortifications. C'était l'époque. Et son amour des pauvres était si vif qu'à l'école, elle donnait même son goûter à des petits camarades démunis. J'ai connu, moi, dans ma jeunesse, des gens qui faisaient ça à l'école. Des jeunes de 16-17 ans qui donnaient leur lunch à des confrères plus pauvres. Ça se pratiquait dans les années 30-40. Je ne vous donne pas de noms. Les gens n'aiment pas que je donne des noms. Alors, cette dévotion, cette charité, toute sa vie, a porté témoignage. Vers ses 18 ans, Colette a perdu son père et sa mère, orpheline. Selon la coutume du temps et du lieu, cette orpheline tombait sous la tutelle de l'abbé des Bénédictins, ce grand monastère à côté de chez elle. Il s'appelait Raoul de Roy. Alors, il a songé à la marier parce qu'elle était charmante. Pas la marier lui-même, l'épouser, là. La faire marier par quelqu'un d'autre, soyez sans crainte. Et alors, elle a refusé tous les partis que cet abbé lui présentait. Elle désirait, comme on dit dans les vieux textes, aumôner tout son argent, faire de son argent une immense aumône pour se consacrer à Dieu. Et un premier essai chez des béguines de Corbie, ça n'a pas marché. Un an plus tard, elle est entrée chez les bénédictines, brièvement, les bénédictines de l'hôpital, c'est un échec encore. Et puis, il y avait un couvent de Clarisse, pas loin, à Pont-Saint-Maxence, et là, elle pensait trouver le bonheur. Mais ça fut une déception, parce que le couvent pratiquait ce qu'on appelle la règle des urbanistes. C'est une règle qui avait été établie par Urbain IV, hein. La pauvreté était moins stricte, et même il y avait des monastères qui avaient des placements et qui s'occupaient davantage de leurs placements et des revenus que de la vie monastique véritable. Alors Colette est revenue à Corbie, puis à la fin de 1402, le père Jean Pinet, qui était gardien du couvent des Cordeliers, ou des Franciscains, s'il vous plaît, près de Montreuil, est passé par là. C'était le temps où des hommes et des femmes pratiquent ce que l'on appelait le reclusage. Ça vous dit quelque chose à la plupart d'entre vous, parce que nous avons, dans notre histoire de Montréal, de Ville-Marie, une immense recluse, très importante, Jeanne Lebert. Et alors, le reclusage, ben, il se murait dans une petite petit appartement de 3 pièces qu'elle avait, elle. Construit de préférence entre 2 arcs-boutants d'une église. Alors, il y avait une petite fenêtre qui leur donnait une vue sur le tabernacle du sanctuaire, comme avait Jeanne Lebert ici dans Vieux-Montréal. Et puis une autre fenêtre permettait à des amis charitables de leur faire parvenir un peu de nourriture. Alors là, le père Pinet a proposé à Colette cette forme de vie, puis elle l'a acceptée. Le 17 septembre 1402, en l'église Notre-Dame, en Saint-Étienne, a eu lieu la cérémonie. Au milieu d'une foule nombreuse, Colette a assisté à la grand-messe, puis le père abbé du monastère des Bénédictins, dont Raoul, l'a conduit à sa cellule. Elle a reçu ses vœux, et bien, il a reçu ses vœux plutôt selon la règle du tiers-ordre franciscain. Puis il l'a claustré, l'a enfermé dans cette prison volontaire. Et 3 ans, Colette a vécu ainsi, en reclusage. Ce sont des années pour elle de joie spirituelle intense. Des années d'austérité rigoureuse toutefois, mais aussi de lutte avec celui qu'elle appelle l'ennemi d'enfer. C'est drôle, hein? On avait fait une émission à la télévision avec un ermite comme ça, le père de Vaugué de l'abbaye de la Pierre-Quévire, qui vivait comme ermite, et il parlait de ça, de la lutte contre l'ennemi d'enfer, contre le démon, quoi. Même au XXe siècle. Mais pourtant, il était très intelligent, très... formidable, c'est une très grande famille, les Vaugués. Alors, elle est passée par le désert des grandes purifications. Mais voici qu'à cet ermite, Dieu, par plusieurs inspirations, lui révèle la mission qu'il lui réserve. L'Église et la France souffrent. Un grand dommage. Alors elle doit travailler, lui demande Jésus, à réparer cette robe déchirée. 7 ans plus tard, en 1412, va naître à Don Rémy, on le sait, hein, une petite fille qui va recevoir une vocation inouïe. Hein, la mission qui est réservée à Colette est moins guerrière que celle de Jeanne d'Arc. Elle ne revêtira pas, elle, une armure de fer. Pas besoin d'épée. Elle ne sera armée que de foi et de charité. Elle n'ira pas à cheval. Mais elle va courir les routes de France, tantôt sur un pauvre chariot, tantôt assise sur une mule, mais le plus souvent marchant pieds nus, à même les chemins pierreux. Le service de Colette et celui de Jeanne d'Arc se compléteront l'un l'autre, et puis le martyre de l'une sur le bûcher de Rouen. Et par la pauvreté de l'autre, mais le Seigneur va opérer la même merveille. Il va montrer aux contemporains éblouis que sa puissance éclate dans ce qu'il y a de plus faible au monde, hein, 2 femmes, simples. Comment cela pourra-t-il se faire? Mais Colette, comme Marie le jour de l'Annonciation, se posait bien des questions et Dieu lui a répondu par une inspiration personnelle d'abord. En quelques jours, elle a rédigé un mémorial des choses que Dieu, par grâce, lui avait manifestées qui lui étaient nécessaires pour sa mission, dit le vieux texte. Puis aussi par des événements, loin de Corbie en Avignon, un fils de Saint-François, le père Henri de la Baume, s'en allait pèlerin vers Jérusalem pour implorer le Seigneur de rétablir l'unité et la paix dans la chrétienté. Et voici qu'à un moment donné, ce bon père qui était pèlerin reçoit l'inspiration et la mission de rebrousser chemin. Dieu lui dit une recluse en Avignon, « Vous venez non en Terre Sainte, mais à Corbie. » Alors, il décide donc d'aller à Corbie, dans le nord de la France. Comme je vous ai dit, il parvient le jour de juillet 1406, il est accompagné d'Isabeau de Rochechouart et d'une escorte, car les routes sont pas sûres. Voyager dans ce temps-là, c'est risqué de se faire attaquer continuellement. Et Colette, avertie par l'Esprit-Saint, attendait cette visite et l'arrivée des voyageurs est pour elle un nouveau signe que sa mission n'est pas une chimère. Elle signait toujours du nom de pauvre et inutile religieuse de l'ordre de Madame Sainte-Claire. Et par ces mots, elle entendait protester qu'elle n'était point une fondatrice, mais une réformatrice, fidèle à Sainte-Claire. Qu'elle n'avait point mission de créer un ordre nouveau, pas du tout, mais de restaurer en sa pureté l'idéal du poverello de Saint-François d'Assise, quoi. Dans les 3 ordres franciscains, les choses dès lors vont très vite. Mais le 23 juillet, 1406, là, Sainte-Colette est relevée de son vœu de reclusage. Une semaine plus tard, le 2 août, elle se met en route avec le père Henri, puis cette dame Isabeau de Rochechouart, et on se dirige vers Nice, où s'est retiré par crainte de la peste le pape d'Avignon Benoît XIII. À leur passage à Fontenay près de Poligny, les voyageurs sont reçus par Blanche de Savoie qui est conquise d'emblée par Colette. Il met à sa disposition quoi? Sa fortune, imaginez, et ses puissantes relations, elle lui ouvre l'accès de la cour pontificale. Alors dès la première entrevue, Benoît XIII, malgré les réticences de ses cardinaux, est gagné à la cause de Colette. Comme quoi, dans l'âme de ce pape habitait l'âme d'un pauvre. Il savait reconnaître la pauvreté évangélique chez quelqu'un qui voulait la pratiquer, même si lui était maintenu dans les honneurs et toutes sortes de choses. Alors il s'est entretenu plusieurs fois avec Sainte-Colette, et le 14 octobre 1406, il pose un geste absolument incroyable, il lui octroie la permission de vivre pauvre dans la pauvreté de Saint-François d'Assise, puis il la revêt de l'habit des Clarisses, l'admet à la profession et la nomme, c'est incroyable, dame, mère et abbesse à perpétuité de la réforme. Elle n'a même pas de monastère, même pas de religieuse, c'est incroyable, ce pape est décidé. Mais Colette n'a jamais abusé de ses titres. Elle s'appellera toujours Sœur Colette, pauvre et inutile religieuse de l'ordre de Madame Sainte-Claire. Elle écrit même un jour à Benoît XIII pour solliciter la faveur de vivre dans un monastère en qualité de servante. Mais ce qui est fait, et le demeurera, lui dit le pape. Et pour la consoler, il lui envoie un magnifique bréviaire imprimé sur velin et orné de délicates miniatures, et on le conserve encore au monastère des Clarisses de Besançon. Mais la volonté de Dieu est claire. Tout ce qui survient à Colette depuis 25 ans suit, à travers toutes sortes de méandres de la Providence, une direction qui jamais ne s'infléchit, ne change. Elle doit rétablir dans la chrétienté que les concupiscences déchirent. Elle doit rétablir la pauvreté de François et de Claire. Deux siècles de l'histoire de l'ordre franciscain devrait la décourager d'entreprendre une telle réforme. On peut se poser la question, la pauvreté évangélique, oui. On peut la pratiquer quand on vit seul, en réclusage, mais dans des couvents, dans un ordre entier, avec des centaines de monastères. Mais c'est souvent comme ça, le nombre draine avec lui la médiocrité, c'est inévitable. Alors, elle, ça ne l'importe plus. C'est la sagesse des saints qui l'habite. Dieu le veut. Le Christ a aimé d'amour la pauvreté, cela lui suffit et Colette reprend la route. Alors de Nice, elle remonte vers la Picardie natale, donc tout à fait au nord. Le pourquoi, Colette, venir aussi d'autre part en Franche-Comté implanter ta réforme, Elle répond au gré de Messire Dieu. Au gré de Messire Dieu. Il faut, pour bien comprendre la suite de toute cette odyssée de Colette, nous remettre en mémoire l'état de la société du 15e siècle. Rien, alors, surtout pas une réforme comme celle qu'elle veut faire, ne pouvait se faire sans l'appui des puissants de ce monde, les papes, les rois, les princes et les ducs. Et Colette jouit, par providence, de ses appuis. C'est extraordinaire. Et la merveille, ce fut qu'en toutes ses amitiés, la Colette est restée la simple, la pauvre, la priante, la joyeuse petite Colette. Ce fut aussi que, loin de se laisser atteindre par les fastes puis là, les intrigues de cour, parmi lesquelles, bien contre son gré, il lui fallait circuler, elle a gagné au contraire ses riches bienfaiteurs, ses puissants protecteurs, à la pauvreté, à la paix, à la charité du Christ. Elle convertissait le monde, les gens les plus étonnants. Et lorsqu'elle mourra, quelque chose dans la chrétienté aura changé, et c'est à Corbie, lui semble-t-il, dans sa ville natale, qu'elle doit commencer sa mission. Mais Corbie ne l'accueille qu'avec mépris. Instable, fantasque, illuminé, disait-on, réprouvé aussi. Les gens la traitaient n'importe comment. Ils n'ont pas saisi le sens de tous ses premiers essais de vie religieuse. Et même les chers bénédictins qui l'avaient appuyé au début lui décochent des sarcasmes à tel point que Colette doit fuir et se réfugier en une carrière abandonnée au bord de la ville, imaginez. Et le père Henri de la Baume la découvre en cet étrange ermitage et lui propose de l'amener au château de son frère Allard. Et elle accepte. Une joie lui est réservée en son chagrin. Deux amis de Corbie, Marie Sénécal et Guillemette Chrétien, c'est des noms québécois, ce Sénécal puis Chrétien, eh bien, ils décident de l'accompagner, ce sont les premières sœurs à la suite. Puis une troisième, dont le nom de famille est Legrand, un autre nom québécois, se joint à elle. Alors, c'est les premiers essaims. Maigre monastère, hein, mais ambulant. On mendie le long de la route, le pain quotidien. C'est la joie de Saint-François d'Assise qui inonde leur cœur. Et d'étape en étape, mais Colette et ses compagnes, avec le père Henri, ce parfait ami, arrivent au château de la Baume, celui de Frontenay près de Poligny, celui de Silingy en Savoie. Là, les hystériens discutent, mais enfin, peu importe. Tout s'organise, et petit à petit, elles parcourent l'Europe. Elles fondent. Et les sœurs se joignent à elles de plus en plus. Et on peut dire que Colette a aimé d'un amour de prédilection. Un monastère en particulier, c'est celui de Poligny, qui est blotti comme un petit oiseau apeuré, entre la collégiale, puis la pique du rocher, pendant 10 ans, il va y demeurer. Mais elle sort pour fonder, mais elle revient toujours dans ce monastère qu'elle aime. Nous verrons la suite tout à l'heure. Donc, dans ce monastère de Poligny, c'est très joli Poligny, une très jolie petite ville, tout a été créé, organisé et conçu dans la stricte pauvreté. Pour la stricte pauvreté. Cette bâtisse, d'ailleurs, s'harmonise merveilleusement toutes les maisons très humbles des jardiniers, des bûcherons, des vignerons de cet endroit. Et même, on pourrait dire, aux masures des petites gens. Il y a le grand vent de la réforme qui heurte ailleurs avec violence les riches demeures. Et c'est pas la réforme protestante. Hein? C'est avant. Mais c'est d'autres formes de réforme. Et pendant 2 ans, jusqu'en octobre 1417, Nicolette dirige elle-même la construction de ce petit monastère qui est toujours là. Et même les officines étaient si étroites et si basses dans l'architecture qu'elle préférait. On dit qu'une religieuse de moyenne stature, là, disons, en pied, le 5 pieds et demi, pouvait toucher le plafond avec ses mains. Et les marmites de cuisine, elle les voulait en terre, les ustensiles du réfectoire en bois. D'ailleurs, la coupe de Sainte-Colette, que l'on conserve avec dévotion, est rustique. Et le linge de toile, c'est de la toile grossière. Tout à l'avenant. D'ailleurs, à Poligny, il y a une atmosphère de Fioretti, comme on dit. Ça enveloppe les premières Clarisses. On raconte qu'un agneau mystérieux accompagne Colette. Un petit agneau. Et puis, il y avait des alouettes et des tourterelles qui volaient à l'aise et qui se posaient, tout en chantant sur la main de la mère abbesse, Sainte-Colette. Et qui mettait beaucoup de plaisir à aller prendre des petites bectées dans son écuelle. Alors, ça avait l'air d'une espèce de paradis terrestre. La nature, toute réconciliée. Les êtres humains avec les animaux. On peut revenir aux choses de la terre. À Poligny, Colette rédige assidûment. Ses sentiments, ça s'appelle comme ça, sentiments sur la règle de Saint-Clair. C'est une étrange façon de faire une réforme, hein? Sentiments sur la règle de Saint-Clair. Et c'est de là que vont sortir en 1434 les constitutions de la réforme. La première ébauche date de 1410 à 1412, il y a une seconde rédaction ensuite qui peut être faite plus tard. Elle remanie avec soin son texte parce qu'elle veut être prudente. Hein? Elle va les mettre au point finalement vers 1430. Ça prend donc beaucoup de temps. C'est un labeur difficile pour elle. Hein? Puis elle désirait que les filles de Sainte-Claire, les Clarisses, soient animées dans toute la pratique de toutes les vertus, surtout de la sainte pauvreté. Hein? Tout pour elle naît de l'amour. Tout est pour l'amour. Tout est amour. Hein? C'est très beau ce qu'elle dit. Tout naît de l'amour. Tout est pour l'amour. Tout est amour. C'est encore à Poligny, donc, dans cet endroit, qu'ont eu lieu quelques-unes des plus étonnants miracles de Colette, je vous en raconte, qui semblent être assez sérieux. C'est des miracles majeurs. Hein? Les miracles jaillissent sur les pas de Colette pendant toute sa vie, d'ailleurs. Comme fleurs sous les pas d'une fille. Vous savez, on mettait des fleurs autrefois, même quand les prêtres prenaient le Saint-Sacrement dans nos rues. Des tas de fleurs, c'était extraordinaire autrefois. Et sans doute, la ferveur populaire a dû lui emprunter des miracles. Mais Il y a des faits merveilleux incontestables. En voici un. On dirait qu'elle veille avec prédilection sur les naissances difficiles, où mère et enfant risquent de mourir. On a les noms de Jeanne Maillardet, Étiennette Courreau, qui ont bénéficié de ce charisme de Colette. Beaucoup d'autres mères, mais enfin je passe. Parmi les miracles, il y a même des résurrections. Ça semble étonnant. Mais on a les preuves les plus étranges. C'est seul, évidemment, Dieu qui peut commander à la mort. Mais il y a un vitrail dans la collégiale de Poligny qui relate la célèbre résurrection d'une Clarisse. Le fait étant contesté par quelques historiens, bon, je préfère retenir une autre résurrection, qui celle-là est attestée par celui qui en a bénéficié lui-même, c'est le père Claret, C-L-A-R-E-T, qui était gardien, ou si vous voulez supérieur, le gardien des franciscains de Dôle. C'était un apôtre de la réforme franciscaine que préconisait Colette. Or, il est mort à Lons-le-Saunier. Et Colette est alors à Poligny, elle supplie le Seigneur. Et voici que pendant les funérailles à l'église, le père Claret se lève devant tout le monde. Il a vécu et travaillé de longues années encore, et étrange retour des choses, c'est lui qui l'a assisté au moment de sa mort. Il a assisté Sainte Colette. Je prends... Oh mon Dieu, je veux vous raconter un autre miracle. Elle a manifesté plusieurs fois le don qu'elle avait reçu de lire dans les cœurs, de les toucher, puis d'obtenir des conversions inespérées. Alors plusieurs personnes venaient souvent à elle pour recevoir consolation de leurs âmes. Et on dit que mêmement plusieurs obstinés et endurcis en plusieurs maux et péchés, elle faisait confesser dévotement et révéramment en componction par ses saintes paroles et admonitions. Elle réussit à convertir des gens qui étaient inconvertissables. D'ailleurs, à Poligny, il y avait un certain chevalier, dit-on, qui s'était taillé une réputation solide là, de mécréant. Il se vantait d'avoir rompu avec Dieu depuis 30 ans. On entend ça encore aujourd'hui. Moi, j'ai des amis comme ça. Je me souviens de ce pauvre, comment s'appelait-il, donc Paul Toupin, qui avait été secrétaire de l'Académie athanasienne française, qui avait rompu avec Dieu à l'âge de 16-17 ans, et chez moi, il avait regardé des entrevues de rencontres avec le père Jean, un trappiste. Il s'est converti sur le champ, il s'est confessé le jour même et le lendemain, il communiait, à 60 quelques années. Or, donc... ce mécréant s'est vanté d'avoir rompu avec Dieu depuis 30 ans, et Colette, dit-on, moyennant la grâce de notre Seigneur, elle a connu ses péchés sans qu'il se confesse. Alors, par charité, ça lui a inspiré un geste lourd de sens, elle a pris sur elle, devant le Seigneur, les fautes de cet homme. Elle s'en est confessée, puis elle a fait pénitence. Comme si elle était, elle, le coupable. Une telle générosité a eu raison de la résistance du pécheur. Tantôt après, dit-on, le dit chevalier se confessa fort dévotement et humblement et reçut pénitence. Des grandes conversions, il y en a beaucoup dans des vies saintes. Et c'est au temps où Colette séjournait à Poligny que se rattache sa principale rencontre avec le célèbre et saint dominicain Vincent Ferrier, dont je vous parlerai le 5 avril. Les historiens discutent sur les dates et les lieux où les deux saints se sont entretenus des maux de l'Église, des complications, des divisions dans l'Église avec ses nombreux papes. Mais s'accordent les historiens sur un point. Vincent Ferrier, saint Vincent Ferrier, est demeuré quelques jours à Poligny en juin 1417. Il logeait dans un autre couvent. Il venait chaque jour visiter Colette. Et le 9 juin 1417, Colette et Vincent ont expédié ensemble, nous dit une tradition, une lettre au père du concile de Constance, qui s'efforçait alors de restaurer l'unité de l'Église en élisant un pape qui serait le vrai pape. De cette lettre, qui n'a jamais été retrouvée, on ignore les termes, mais on en devine la teneur, car Vincent et Colette étaient tous deux habités par une immense angoisse et une immense espérance. Une angoisse de voir l'Église vacante du successeur de Pierre, le pape. Or, des trois papes rivaux, entre lesquels la chrétienté était écartelée, il y en avait un qui s'appelait Jean XXIII, oui, Jean XXIII, qui était un antipape, était captif, lui, de l'empereur d'Autriche. Benoît XIII, lui, qui était rebelle et obstiné, s'était enfermé, avec une cour dérisoire, dans sa forteresse en Aragon, la forteresse de Peñíscola, bon, en Espagne. Puis avec Grégoire XII, le troisième, dès qu'il eut réuni le concile qui devait mettre fin au trop long schisme, il avait démissionné. Alors de l'angoisse même ressurgissait l'espérance. On croyait que ce concile donnerait à l'Église un pape unique et digne. Et le 11 novembre 1417, le cardinal Ottone Colonna, de la grande famille des Colonna, mais qui était fort vertueux, était enfin élu. Et il prit le nom de Martin V. Cependant, là-bas, Don Rémy, grandit une petite fille, hein, qui Dieu confiera dans quelques années la mission de bouter les Anglais hors de France et de restaurer l'unité de la patrie. Et d'autre part, la mort de Jean sans peur, en 1419, va modifier tout l'échiquier politique de la France, elle va curieusement relancer Colette sur les grands chemins du royaume. Et bientôt, en effet, sa réforme, la réforme des Clarisses, va franchir les limites du duché de Bourgogne. Mais qu'importe à Colette les conflits des guerriers puis tous les découpages de la politique, elle porte, elle, hardiment ses pas hors des frontières. Elle fonce. En 1419, l'année où est mort Jean sans peur, elle fonde Decize à la prière de la comtesse de Nevers. Et puis, c'est la duchesse Marguerite, veuve de Jean sans peur, qui pour le salut du duc, veut fonder un nouveau couvent de Clarisse en Bourgogne. Alors elle y va. Presque à la même époque, la duchesse de Bourbon, Marie de Berry, l'appelle à fonder sur ses terres. Alors pour implanter tous ces nouveaux monastères, Colette circule à travers des troupes qui s'affrontent, comme je vous avais dit plus tôt. Elle a un chariot qui roule, il est misérable, c'est chaotant, c'est brinque-ballant, disent les vieux textes. Parmi toutes les hordes des vagues soldats, les pillards, hein, elle passe et repasse les lignes de feu. C'est en grand péril, mais jamais elle n'est atteinte de quoi que ce soit. C'est absolument mystérieux. C'est à croire qu'elle est entourée par la charité évangélique qui la préserve. Et tout ça lui permet de dominer les risques que lui font courir tous ces hommes cruels, cupides. La ville de Chambéry, dans le sud, en Savoie, réclame aussi un couvent. Mais par suite d'opposition, ne sera fondée qu'en 1454, après la mort de Colette. Comme en passant, Colette décide de fonder à Vevey. C'est le vieux duc, écoutez bien ça, Amédée VIII, lui-même qui dirige les constructions. Un duc. Qui va être élu pape. Incroyable, hein? Saviez-vous ça? Mais antipape. Donc, le vieux duc Amédée VIII dirige les constructions du monastère. C'est un bon bonhomme. Et bientôt, quelques pères du concile de Bâle, en Suisse, un concile curieux, vont proposer à ce duc la tiare. Et puis, Colette s'oppose à ça. Et puis, le duc accepte, lui, en 1438, la tiare. Et ça risque de couper à nouveau en deux la chrétienté. À Vevey encore, Colette rencontre le roi Jacques de Naples. Elle obtient de lui une conversion éclatante qui le conduira à finir sa vie sous l'habit des fils de Saint-François. Alors ce pauvre duc, là, Amédée VIII, va devenir le pape Félix V. Ce sera le dernier antipape, car le vrai était Eugène IV, qui a régné de 1431 à 1447, et c'était la fin de ces histoires d'antipapes et de deux, trois papes. En 1426-28, elle fonde à Orbe, et puis elle fonde aussi au Puy-en-Velay, elle fonde à Castres, elle fonde à Gand, où elle va pour mourir. Et puis Colette, en 1429, est à Moulins aussi.
Or, au même moment, Jeanne d'Arc séjourne aussi à Moulins. Elle y attend les renforts en troupes et en armes pour chasser les Anglais de France, qui lui permettront d'attaquer la Charité-sur-Loire. Et Jeanne d'Arc est au fait de sa gloire militaire. Elle a délivré Orléans. Elle a fait sacrer le roi à Reims, et donc à Moulins, où elle passe de longues heures en prière dans la chapelle des Clarisses, sise près de la tour de la Geôle. Mais peut-être même, si l'on en croit certaines traditions, elle aurait demandé aux Clarisses d'habiter 3 jours sous leur toit. Elles sont donc là, toutes proches l'une de l'autre. La guerrière de 17 ans, Sainte Jeanne d'Arc, et cette moniale de 48 ans, Sainte Colette de Corbie. Toutes deux portent au cœur les mêmes soucis, les mêmes désirs. On se demande si elles se sont rencontrées, mais si c'est évident qu'elles se sont rencontrées. Ont-elles conversé? Il semble bien que oui, ce serait impensable que non. L'histoire ne le dit pas pourtant. Il n'y a aucun document qui nous rapporte quelque entrevue entre les deux saintes. Ce silence s'explique assez par la discrétion que s'est toujours imposée Colette sur les affaires politiques. Par reconnaissance d'abord pour les ducs de Bourgogne et aussi par prudence naturelle. Elle se savait surveillée par les agents du roi. Et quelques semaines plus tard, à Decize, où elle avait fondé, il suffira que la sœur chargée de sonner matine se trompe d'heure, d'ailleurs, pour que la garnison s'émeuve. Ils ont eu peur, ils ont failli être tués. Il fallait faire très attention, il fallait être très prudent. C'était des moments tragiques, difficiles. Colette, inlassable, a continué toujours sa route. Un peu avant 1431, elle fonde Lézignan, près de Narbonne. Et puis, elles font même dans le Palatinat à Heidelberg. Dans tous ces tracas et ces voyages, Colette a mis à Orbe la dernière main à ses sentiments sur la règle de Saint-Clair, ce texte qui fait la réforme. D'après cet écrit de Colette, Guillaume de Casale, ministre général de l'ordre franciscain, a rédigé les constitutions de la réforme. Il les a fait réviser en 1434. Il les approuve en des termes enthousiastes. Il dit « C'est la œuvre spéciale de Dieu ». Nos Clarisses à Valleyfield sont des Clarisses Nicolettines, ou Colettines, qui suivent la règle de Sainte-Colette, avec les améliorations et les transformations depuis le Concile. Et alors donc, la paix d'Arras en 1435 ouvre à Colette les portes de sa Picardie natale et les pays du nord de la France. Elle fonde toutes sortes de monastères encore, ça n'arrête pas. Et des moments redoutables attendent. Jean de Capistran, Saint Jean de Capistran, qui est le réorganisateur de l'ordre franciscain, arrive à Besançon au printemps de 1440. Il a autorité de par le pape, Eugène IV, pour unifier tous les couvents de Clarisses, qu'ils soient de la règle de du roi Urbain ou bien réformés par Sainte Colette. Alors on se demande ce qui va se faire. Alors elle est bouleversée, elle a peur que tous les couvents retombent chez les urbanistes, comme on dit, du pape urbain, et qu'ils redeviennent des monastères plus ou moins relâchés. Alors elle est bouleversée, elle demande à Jean de Capistran, Saint Jean de Capistran, de lui accorder quelques jours de réflexion et de prière. Elle s'apprête à lutter pied à pied, mais Jean de Capistran, lui, c'est un saint. Il se renseigne, il observe, il implore la lumière de Dieu. Et lorsqu'il retourne au couvent des Clarisses, il est transformé. Il dit, je crois, il dit à Colette, je crois que votre réforme est selon Dieu. Persévérez comme vous avez commencé, car Dieu est avec vous. Et Colette reprend la route, elle fonde à Amiens, elle revient à Besançon, d'où elle repart bientôt pour la Picardie. Un grand espoir l'anime, les bourgeois de Corbie l'appellent, enfin installer ses Clarisses dans sa chère Corbie. Sa petite ville natale. Quelle joie! Dépenser ses dernières forces à réaliser son dernier désir. Mais c'est oublier la force de certaines hostilités, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et l'obstination du démon. Alors là, les mêmes gens, les mêmes puissances qui avaient fait échouer le projet en 1406 se dressent tenaces devant le projet d'aujourd'hui. À la tête des opposants, il y a les bénédictins, qui ont su gagner à leur cause le Parlement. Alors, ni les démarches du gouverneur d'Amiens, Philippe de Saveuse, ni les cimentements du duc Philippe le Beau, ni l'intervention du roi et de la reine de France, ni même la bulle du pape qui les menace d'excommunication, ne font céder les bénédictins et les moines de la toute-puissante abbaye de Corbie. C'est incroyable. Alors Colette est attristée, elle quitte Corbie. Elle s'en va vers son monastère de Gand. Elle y arrive le 6 décembre 1446, ce jour où l'Église fête Saint-Nicolas, d'où vient son nom, de Colette. Nicolette, Colette, ça vient de Nicolas. C'est une femme vieillie, usée, à présent que Colette. Toutes ses luttes, ses austérités, tous ses voyages inimaginables, toutes ses maladies ont miné son corps. Mais l'âme reste ardente comme au premier jour. Il y a des gens qui n'aiment pas que je raconte ce que j'ai fait, mais enfin. J'ai fait un film sur les Clarisses de Valleyfield en 1969-70. Et je vous assure que ces vieilles sœurs qui sont mortes quelque temps après, suivant qu'on les ait filmées, avaient justement ces âmes ardentes, hein, comme au premier jour, et même meilleures. Plus elles approchent de la mort, comme me disait l'une d'entre elles, plus c'est lumineux, elle disait, la mort, c'est comme un grand saut dans les bras du bon Dieu. C'est une sœur québécoise qui a prononcé ces paroles-là, il y a 25 ans. Elle avait bien raison. Le même amour de Dieu, de l'Église et des hommes qui avait jeté Sainte Colette sur les routes de pauvreté et de charité la brûle encore. Elle prévoit pourtant, elle pressent, car elle annonce clairement les difficultés qui pèseront sur son œuvre de réforme et surtout les graves tempêtes qui vont déferler bientôt sur l'Église, sur la France, mais rien ne l'abat. Hein. Le temps de combattre est passé pour elle. Il lui reste à signer sa vie, ou plutôt l'œuvre que Dieu a faite en elle et par elle, par une mort de vraie fille de Sainte-Claire. Alors elle entre en silence. Et même en solitude avec Dieu, elle dit, ne vous attendez pas que je vous dise autre chose à mon trépas, car rien ne vous dirai, ni parlerai à vous. Mais c'est dans un face-à-face avec Dieu seul qu'elle veut vivre sa mort. Et le dimanche 26 février 1447, la fin semble proche. Le père Pierre Devaux, son confesseur, lui administre les derniers sacrements, puis à lente voix, il lui dit, selon son désir, la passion de Messire Jésus-Christ. Comme pour la vénérable mère Thécla Merlot lundi, hein, qui a fondé les filles de Saint-Paul, on lui a lu la passion de Jésus. Ce n'était qu'une alerte d'ailleurs. Le lendemain, le 27 février, à 6 heures du matin, notre abbesse Sainte Colette se met à genoux pour entendre la Sainte Messe en son oratoire. Elle fait la même chose tous les jours. Le vendredi 3 mars, elle s'entretient longuement avec le père Pierre Devaux et le père Claret, celui qu'elle avait ressuscité, là. Mais oui, lors de ses propres funérailles, ce prêtre. Le samedi 4 mars, elle entend la messe une dernière fois. Puis elle demande qu'on lui prépare un lit dans la salle du chapitre, afin que les sœurs puissent se rassembler autour d'elle. Elle se coiffe du voile que lui avait imposé jadis à Nice Benoît XIII, lorsqu'il avait reçu sa profession de clarisse, qu'il avait nommée abbesse et réformatrice de l'ordre franciscain. Et là, elle regarde son misérable grabat, elle trace sur elle-même un lent et large signe de croix. Elle s'étend toute vêtue sur cette paille. « Voici, dit-elle, ma dernière couchée. » Alors commence une agonie lucide qui va durer 2 jours et 2 nuits. Et le lundi 6 mars 1447, en présence de toutes les religieuses du couvent de Gand, de son père confesseur et de son compagnon, très humblement, elle a terminé ses jours. La vie du ciel commençait, ou plutôt s'accomplissait, tant Colette, dès son enfance, avait vécu de l'éternité de Dieu. Nos derniers jours de son existence terrestre, Colette déclara à Pierre Devaux, qu'il a noté aussitôt ses paroles, « Mon Père, ce que j'ai fait, de par notre Seigneur, je l'ai fait. Et nonobstant que je sois une grande pécheresse et toute défectueuse, si je l'avais encore à faire, je ne sais comment je le ferais, fort que par la manière dont je l'ai fait. » Une telle confidence, on peut dire, un moment aussi crucial, ça signe toute sa vie. Le corps de Colette est demeuré à Gand pendant plus de 300 ans. Sauf un court exil que subirent les sœurs à cause des protestants de 1577 à 1586. Gand, par cette présence de Colette, est devenu un haut lieu spirituel de l'Europe catholique. De tous les pays, les nobles, les riches, les pauvres, les simples gens, les bourgeois, les marchands, les soldats couraient vers celle qui n'avait pourtant répété, montré et enseigné qu'une chose, la vraie joie est dans la pauvreté avec le Christ pauvre. C'est là qu'est la vraie joie. En 1470, donc 33 ans après sa mort, s'est ouvert le procès canonique, prélude à toute béatification, et parmi les témoins qui déposèrent sous la foi du serment, beaucoup avaient vu, entendu et vécu ce qu'il rapportait. Tel Jean Boiseau de Besançon, que la prière de Colette avait rappelé à la vie, il avait alors 15 ans. En 1472, la cause partait pour Rome, mais les événements en ont retardé l'issue. En 1536, l'évêque de Tournai, Monseigneur de Croix, usant du droit qui à l'époque était reconnu aux évêques, avait déclaré Colette bienheureuse. De toute façon, elle a été canonisée beaucoup plus tard. Et cette sainte, qui est aimée encore aujourd'hui pour sa force, peut être appréciée par tout chrétien qui aime ceux qui vivent cette parole de notre Seigneur, bienheureux les pauvres, car ils verront Dieu. Voici d'ailleurs une prière de Sainte Colette. Que l'heure de la naissance de l'homme-Dieu soit bénie. Que le Saint-Esprit dont Jésus-Christ a été conçu soit béni. Que la très glorieuse Vierge Marie dont ce Dieu-homme est né soit béni. Et par l'intercession de cette glorieuse Vierge Marie, et par le souvenir de cette heure très sainte à laquelle il est né, que mes prières soient exaucées, et que tous mes désirs s'accomplissent. Ô Jésus, qui êtes la miséricorde et la bonté même, ne m'abandonnez pas à cause de mes péchés, et ne les punissez pas comme ils le méritent, mais exaucez mes très humbles prières, et accordez-moi le bien que je vous demande pour l'honneur et la gloire de votre saint nom. Ainsi soit-il. C'est une prière de Sainte Colette.